rendu dans la leçon où on parle justement de la parole de Dieu. Une parole de Dieu qui est inspirée. Ça vient de Dieu, ça vient de la bouche de Dieu. Chaque mot, chaque parole vient directement de Dieu et nous voulons l'étudier. Mais nous avons vu aussi que ça prend une attitude, deux attitudes importantes quand on approche les Écritures. Ça prend beaucoup d'humilité. Il faut demander à Dieu son aide, qu'il puisse nous éclairer. Et ça prend aussi une volonté à vouloir suivre le Seigneur dans ce qu'il dit. Si le Seigneur nous demande de quoi, de prendre des décisions, s'il y a des choses dans notre vie qu'on doit ajouter ou abandonner, la parole de Dieu nous dit qu'il faut être obéissant. Alors, on va demander à Dieu de vraiment nous bénir ce matin alors qu'on veut étudier sa sainte parole, voir ce que Dieu a à nous dire dans ce passage que nous allons voir ce matin. D'accord? Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur, ce matin, tout comme Alexandre l'a fait tantôt, nous voulons venir à toi en toute humilité. Réaliser que ce livre, Seigneur, est une grâce que tu nous fais de nous révéler ton cœur. C'est ton cœur qui parle à ton peuple. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Nous voulons voir ce livre comme il est, une prophétie qui vient de toi. C'est par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé et ont écrit de la part de Dieu. Chaque parole vient de toi, Seigneur. Et ce matin, nous voulons humblement te demander de parler à nos cœurs à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu cette entrevue cette semaine qu'on a eue à la radio avec Paul Arcand, cette dame qui a accordé une entrevue de sa fille adolescente qui s'est fait violer par des jeunes d'une école, du même secondaire où elle va. Et la femme parlait à Paul Arcand à la radio à son émission un matin, puis elle racontait comment elle sentait tellement d'injustice. Elle n'avait aucune information sur ce qui se passait avec ces jeunes. Paul Arcand lui posait des questions, histoire de savoir si elle avait un peu d'informations, mais la DPJ a comme... et on comprend qu'il y a une certaine dose de confidentialité dans tout ça, évidemment, mais la dame aimerait quand même protéger sa fille contre ces jeunes où elle va au même secondaire. Et d'ailleurs, cette jeune fille était à l'arrêt d'autobus, même après que ce soit arrivé. Et elle racontait, sa mère racontait comment sa fille avait peur parce qu'elle était à l'arrêt d'autobus pour aller au secondaire. Et le frère plus vieux de celui qui l'a abusé, qui l'a violé, était au même arrêt d'autobus que la jeune fille. Il lui faisait des sourires un peu moqueurs. Et évidemment, cette jeune fille est troublée, elle est inquiète, elle est insécure, elle n'est pas bien maintenant, elle est au secondaire, elle est à l'école. Elle n'a aucune information sur ce qui va se passer sur ces jeunes-là. Est-ce qu'ils seront emmenés en justice? Est-ce qu'il va y avoir des thérapies, quelque chose? Elle n'a pas d'information. Alors, la mère criait. Il y avait de quoi en la mère qu'on sentait à la radio? Et nous-mêmes, en entendant cette femme parler à la radio, il y a de quoi d'inné en nous qui crie à la justice, n'est-ce pas? C'est fort, c'est en nous, on veut voir la justice. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, « Heureux ceux et celles qui ont soif, qui ont cette soif de justice. » On veut voir le mal corrigé. Il y a quelque chose en nous, et c'est là, dans le fond de notre cœur, lorsque l'on voit des injustices qui aient lieu, il y a quoi en nous qui sonne une cloche? On n'est pas bien dans... Ouais. Hey, sonne une cloche! Hey, ça, c'est le timing, hein? Oui. Merci, c'était tout arrangé avant. Ouais. Non, c'était pas arrangé. En passant, on aimerait vous demander, effectivement, quand vous venez à l'Assemblée, de fermer vos cellulaires, s'il vous plaît. C'est le cinéma, on demande ça au cinéma, et c'est encore plus sérieux à la maison de Dieu, où est-ce qu'on se réunit dimanche matin, évidemment, hein? On va vous mettre une annonce bientôt. Oui? Alors, pas de problème, on sait que ça arrive. Puis des fois, on oublie même, hein? Ça va arriver. Alors, il y a quelque chose en nous qui crie à la justice. C'est là. Et vous savez, ça a toujours été là, ça. Quand on voit quelque chose d'injuste, quelque chose de mal, on se pose la question, jusqu'à quand, Seigneur? D'ailleurs, il y a une question que les gens se posent. Il y a des gens même qui luttent avec cette question-là. Ils se posent la question, si Dieu existe, comment ça se fait qu'il y a tant de mal dans le monde? Et comment ça se fait qu'il n'agit pas, qu'il laisse aller ça? Et même les enfants de Dieu, nous qui avons la foi, à quelque part, on peut être impatient et on a hâte que le Seigneur revienne et ramène l'ordre. Et c'est en nous, ça. On veut que le Seigneur revienne. On veut que le Seigneur ramène de la justice, qu'il enlève le mal, enlève le péché, le mensonge, la violence, les guerres et tout ça. C'est en nous. On a hâte que ça arrive. Eh bien, justement, Jésus va donner une parabole. Il va donner une parabole parce qu'il sait que dans le cœur même des enfants de Dieu, il y a cette question qui est toujours là de dire « Jusqu'à quand, Seigneur? Comment ça se fait, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? » La fameuse question d'Habacuc. « Pourquoi, Seigneur, je vois le mal juste devant moi, autour de moi? Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas laisser ces choses aller? » Et Jésus va donner une parabole, comme vous savez, nous avons commencé il y a quelques semaines. Nous sommes entrés dans Matthieu 13 et j'aimerais vous lire une des paraboles que Jésus va donner qui adresse justement cette question-là. Donc, je vous invite dans Matthieu 13, verset 24, et j'espère que vous avez votre Bible avec vous ce matin, parce que nous allons lire ce passage ce matin qui est d'une profondeur et d'une richesse. Nous avons besoin de voir ces belles paraboles que nous avons. Il y en a plus de 8 dans Matthieu 13. Et nous allons nous arrêter, nous concentrer sur la deuxième. Nous avons vu la première parabole dernièrement, je vais vous la répéter un peu tantôt, juste pour qu'on se remette un peu dans le contexte, qu'on voit ce qui se passe, ce qui est en train de se produire dans le chapitre, et dans quels sont les événements qui ont amené Jésus-Christ à emmener ces paraboles. Donc, j'espère que vous avez votre Bible avec vous. Si toutefois vous n'avez pas de Bible, vous avez juste à lever la main, les placeurs sont en arrière, ils se font un plaisir d'aller vous porter une Bible, pour que vous puissiez suivre avec nous dans Matthieu chapitre 13. Maintenant, la façon que Matthieu a placé cette parabole dans son livre est vraiment intéressante. On aurait pu penser que Matthieu, parce que Jésus va donner la parabole, après ça va l'expliquer. Alors, on aurait pu penser que Matthieu aurait donné la parabole et tout de suite après aurait collé l'explication de Jésus. Il me semble, nous-mêmes, on aurait fait ça. Logiquement, tu donnes la parabole et tout de suite après, tu donnes l'explication de la parabole, mais ce n'est pas ce que Matthieu va faire. Il va faire un choix. Matthieu va donner la parabole et un peu plus loin, il va donner l'explication que Jésus avait donnée à ses disciples pour comprendre la parabole. Et c'est vraiment intéressant. On n'aura pas le temps de voir toutes les facettes ici de ce chapitre-là, mais Jésus va donner une parabole et tout de suite après, il va donner deux autres petites paraboles. Et après ça, Matthieu va intercaler une citation d'un passage qui vient de Psaume. Un passage qui vient de Psaume 78 et où il va à nouveau donner une petite précision sur les paraboles. Mais on ne va pas regarder ça tout de suite. On va juste, à ce stade-ci, lire la parabole, d'accord? Alors, si vous êtes avec moi dans Matthieu 13, verset 24, je le lis à nouveau, je vais le dire à nouveau, c'est le verset 24, que vous puissiez trouver ce passage-là. Prenez le temps de le trouver, d'accord? Matthieu 13, verset 24, et on va lire jusqu'au verset 30. Alors, c'est Jésus qui donne cette parabole, c'est la deuxième parabole. Alors, est-ce que quelqu'un ici se souvient de la première parabole? La parabole du semeur, les quatre terres, d'accord? Alors, on va revenir. Alors, ça, c'est la seconde parabole, la parabole du blé et de l'ivraie. C'est comme ça qu'on pourrait appeler ça. Donc, verset 24, « Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Arrêtons la lecture juste ici. On va se limiter à ça ici, pour le moment. Alors, Jésus est en train de donner une série de paraboles. D'ailleurs, il va en donner plus de 8 dans ce chapitre. Et chaque parabole répond à une question que l'on aurait, que les disciples avaient, que les gens se posaient à l'endroit du royaume de Dieu. Chaque parabole ajoute une facette pour nous aider à comprendre un domaine particulier du royaume de Dieu. Vous savez, les gens attendaient depuis très longtemps la venue du Messie. Et Dieu avait dit qu'il enverrait, il a dit ça à son peuple plusieurs centaines d'années avant l'arrivée de Jésus-Christ, il avait prophétisé plusieurs fois qu'un jour, la solution au mal et à la violence et à l'injustice, la seule solution qu'il y avait, viendrait par la venue du Messie que Dieu enverrait. Alors, les Juifs s'attendaient à ce que le Messie arrive. Et les Juifs s'attendaient que lorsque le Messie arriverait, immédiatement, le Messie ramènerait l'ordre dans le pays. Immédiatement à l'arrivée du Messie, ils ne savaient pas que c'était pour être Jésus-Christ, mais les Juifs s'attendaient que lorsque le Messie arriverait, tout comme les prophéties, les prédictions l'avaient annoncé depuis plusieurs années, le Messie ramènerait de l'ordre, se débarrasserait des pécheurs, les jugerait, et il n'y aurait que des justes dans le pays. Laissez-moi d'ailleurs vous lire une de ces prédictions-là qui se trouve dans Ésaïe 60. Ésaïe 60 est justement une des promesses où Dieu dit que lorsque le Messie arriverait, il ferait un grand ménage. Il ramènerait la justice au pays. Et laissez-moi vous lire Ésaïe 60, quelques versets dans Ésaïe 60, et vous comprendrez les attentes messianiques que l'on avait, les attentes que l'on avait lorsque le Messie arriverait. D'accord? Voici ce que ça dit, Ésaïe 60, verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Et plus loin, au verset 5, ça continue en disant, « Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. » Plus loin, ça dit, « Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. » Verset 18, beaucoup plus loin, ça dit ceci, « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. » Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes, vous entendez ça? Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Alors, retenez ce verset 21 où Dieu promet que voilà ce que le Messie va faire dans le pays d'Israël. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. les Juifs croyaient que lorsque le Messie viendrait, il jugerait le peuple dès son arrivée. Il enlèverait toute injustice, tout péché, tout mal, ce serait enlevé et il donnerait, redonnerait la gloire à Jérusalem. Des années ont passé et Jésus arrive. Et Jésus commence un ministère, commence son ministère et son enseignement, il commence à prêcher. Et les Juifs, particulièrement les chefs religieux, oui, sont étonnés, les gens sont étonnés de le voir faire des miracles. Certainement, ses œuvres démontrent à quelque part qu'il est le Messie. Mais les gens ne comprennent pas sa délicatesse. Les gens ne comprennent pas le genre de ministère qu'il exerce, ce ministère qui se fait en douceur, presque en secret. Il ne crie pas dans les rues qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur. Et il vient avec discrétion. Et les gens ne comprennent pas. Il se fait discret, il pardonne même les péchés, alors qu'il aurait dû juger le mal, juger les injustices. Voilà que Jésus se tient même avec les pécheurs. Il se tient avec ceux qui sont rejetés, les gens de mauvaise vie. Alors les chefs religieux deviennent de plus en plus agressifs. Ils l'analysent, ils l'observent, ils ne comprennent pas. Et ils commencent même à le mépriser parce que voilà que Jésus viole même leur tradition, leur religion qu'il s'était faite, qui était loin de la parole de Dieu, qui était à l'époque l'Ancien Testament. Ils avaient adopté des centaines et des centaines de lois juives. Ils avaient tellement compliqué les choses. Et Jésus revient à la base. Les Juifs, après l'avoir examiné, discuté ensemble et tout ça, arrivent au point où ils vont prendre position. Et ça arrive dans Matthieu chapitre 12, où les chefs religieux rejettent officiellement Jésus-Christ et disent « ce n'est pas lui le Messie ». Mais ils vont même plus loin, ils ont tellement de colère et de mépris à son égard, à son endroit, qu'ils vont même concocter avec les fonctionnaires du gouvernement pour même le faire tuer. Ils vont même aller au point de blasphémer contre le Saint-Esprit, de dire que toutes les œuvres miraculeuses que Jésus accomplit, c'est même par le diable qu'il l'accomplit. Et malheureusement, l'un des chapitres les plus sombres du livre de Matthieu se trouve dans Matthieu chapitre 12. Et il faut comprendre ça parce que ça fait toute une différence. Parce que quelque chose qui va se produire maintenant dans le chapitre 13 est le pivot central de tout le livre parce que c'est vraiment là que Jésus va réorienter son ministère. Il va réorienter son ministère en ce qu'il va se concentrer de plus en plus à partir de ce moment-là vers un ministère envers les non-juifs, vers ce qu'on appelle les gentils. Et il va concentrer son ministère aussi envers ses disciples. Donc, non seulement ça, tout d'un coup, alors que jusque-là, jusqu'au chapitre 12, jusqu'au chapitre 13, Jésus parlait ouvertement à la foule. Mais voilà que, rendu au chapitre 13, il y a un nouveau mot qui apparaît pour la première fois dans le livre de Matthieu, le mot « parabole ». Alors que maintenant, Jésus parlait ouvertement jusqu'ici, maintenant, il va parler en parabole au chapitre 13. En d'autres mots, le message ne sera plus aussi clair. Et ça prendra vraiment des cœurs sincères et pour aller plus loin, pour s'approcher de Jésus, pour aller plus loin à connaître la vérité. Mais à la foule, Jésus va parler en parabole et on va retrouver plus de 12 fois le mot parabole dans ce chapitre-là et seulement 5 fois dans les chapitres qui vont suivre dans le livre de Matthieu. Il y a quelque chose de vraiment qui change au chapitre 13. Et c'est une forme de jugement. Parce qu'Israël a officiellement rejeté Jésus-Christ comme Messie au chapitre 12, il y a un changement qui a lieu au chapitre 13, où maintenant le message n'est plus aussi clair. Il est très clair pour les disciples, et Jésus va prendre le temps d'expliquer aux disciples, en d'autres mots, la bonne terre, ceux qui veulent vraiment connaître le Christ et suivre Jésus-Christ. À eux, Jésus va donner la révélation profonde, va expliquer les paraboles. Et ce qui était mystère ou ce qui est mystère pour la foule ne sera plus mystère ou ne sera pas mystère pour les disciples. Jésus dit aux disciples, c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, ce n'est pas que Jésus va cacher des choses aux disciples, non. Il va ouvrir la porte de la révélation aux disciples. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va dire aux disciples, « Vous êtes très privilégiés, vous êtes heureux. Il y a des prophètes avant vous qui ont voulu connaître ce jour, mais c'est à vous de connaître qui est le Messie. Et je vais vous révéler les mystères du royaume des cieux. » Et dans un sens que ça implique, ce que ça nous dit à nous aujourd'hui, c'est que nous sommes très privilégiés de pouvoir avoir accès aux mystères du royaume de Dieu. Les enfants de Dieu peuvent connaître Dieu personnellement. Et c'est un grand privilège. Être un enfant de Dieu est un grand privilège. Ce livre qui est voilé pour les incroyants nous est ouvert lorsqu'on vient à lui avec foi. Dieu enlève le voile, nous aide à comprendre les mystères du royaume de Dieu et de sa parole. Alors Jésus change sa façon de parler à la foule, il change même l'orientation de son ministère, il va se concentrer vers les disciples et concentrer aussi vers les non-juifs. Maintenant, Jésus a déjà donné une parabole, la parabole des quatre terres. Il va y avoir 8 paraboles dans le chapitre 13, et ce qu'il faut savoir, c'est que chacune des paraboles vise à répondre à une question sur le royaume de Dieu. Les chefs religieux viennent de prendre position, ils viennent de rejeter Jésus-Christ, et ils veulent le tuer. Cette réaction, ce rejet de Jésus, nécessite des explications auprès des disciples. Et voilà la question que la première parabole cherche à répondre, la parabole des quatre terres. Si Jésus est vraiment le sauveur du monde, si Jésus est le Messie tant annoncé dans l'Ancien Testament, c'est lui qui doit enlever toute injustice et remplir la terre d'Israël que de juste, s'il doit juger le monde et rétablir l'ordre, alors comment expliquer ce rejet? Soyons honnêtes, les disciples devaient se poser cette question-là. Il y a une question qui traîne. Là. Comment ça se fait qu'au chapitre 12, les chefs religieux qui auraient dû être les premiers à reconnaître Jésus comme le Messie, le rejettent et veulent même le faire tuer? Alors voyez-vous, la première parabole des quatre terres, Jésus veut répondre à cette question et il répond à cette question non à la foule, mais à ses disciples. Et ce que Jésus dit essentiellement, c'est, on l'a vu la dernière fois, la parabole des quatre terres. Un semeur sort dehors avec sa semence et lance la semence, qui est la parole de Dieu, à 4 différents endroits. Et les endroits, la terre, les 4 différents endroits représentent 4 différentes personnes, 4 genres d'attitudes différentes face à la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont recevoir la parole de Dieu, tout comme quand le semeur lance la semence et ça tombe sur le sentier qui est très dur. Le sentier, c'était le chemin qu'on empruntait pour aller dans les terres. C'était là que les voyageurs passaient pour se rendre dans d'autres territoires. C'était donc des chemins de traverse. C'était là qu'on empruntait. C'était le sentier. Et vous savez, un sentier, quand on marche toujours au même endroit, c'est très dur. Ce que Jésus est en train de dire et expliquer aux disciples, c'est que certaines personnes à qui ont représenté la parole de Dieu, ils auront un cœur tellement dur que la parole de Dieu ne rentrera pas, ne portera pas aucun fruit. Ça va être dur, dur, dur. Et c'est vrai, on parle aujourd'hui dans nos bureaux. Tu parles à quelqu'un de Jésus-Christ et tu dis, moi, je veux absolument rien savoir de ça. Ça ne m'intéresse même pas. Des cœurs durs, cœurs fermés, hein? On en connaît. Vrai? Très, très dur. D'autres endroits, le semeur lance la semence à d'autres endroits et ça tombe à des endroits qui sont pierreux. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un petit peu de terre. Donc, on lance la semence et il va avoir un petit peu de fruits. Mais voilà, il y a de la roche en dessous. Donc, ce n'est pas profond, ça reste sec, et avec le soleil du Moyen-Orient, ça brûle, ça ne porte pas de fruits. Et Seigneur, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui vont recevoir la parole avec joie. Et ils vont être contents, super excités, tu leur présentes l'Évangile, puis ils vont tellement être contents. Ça donne vraiment l'impression d'être des enfants de Dieu, des gens qui disent « Oui, c'est en plein ça que je cherchais, enfin! » Puis là, il y a une misère, il y a un problème qui arrive, une épreuve dans leur vie, puis là, ils disent « Ah, ben c'est ça, moi je pensais qu'en venant au Seigneur, j'en aurais plus de problème. » Combien de gens sont comme ça, sont déçus en devenant chrétiens parce qu'ils ont encore des problèmes dans leur vie? Ils rejettent. Troisièmement, le troisième genre de terre de réponse à l'Évangile, c'est que tu lances et ça tombe dans les endroits où il va y avoir des épines. Et ce que ça veut dire, Jésus dit, il y a certaines personnes qui vont... Tu leur donnes la parole de Dieu, mais sont tellement préoccupés par l'argent, vouloir s'enrichir, devenir riche et tout ça, que les soucis de ce siècle font simplement que la parole de Dieu n'entre pas, il n'y a pas de fruit. Mais le semeur continue, il lance la semence et ça tombe dans la bonne terre. Il y a un endroit où c'est la bonne terre et il y a des gens qui vont accepter le Seigneur et vont porter du fruit. On en voit ici des gens qui ont eu un bon sol, le cœur était prêt et la parole est rentrée à porter du fruit. Et la question, Jésus est en train de répondre aux disciples, si Jésus est vraiment sauveur du monde, comment ça se fait? Comment expliquer qu'il y a des gens qui rejettent l'Évangile? Bien, c'est que justement, il va y avoir différentes réponses et il faut s'attendre. Et Jésus prépare les disciples parce que les disciples, tantôt, vont prendre ce message, vont aller prêcher tout à l'heure. Et il faut s'attendre qu'il y a des gens qui vont refuser l'Évangile. Il y a quatre différentes attitudes face à la parole de Dieu. Et le royaume de Dieu, ça va être à travers des situations parfois difficiles. Il y a des gens qui vont l'accepter, d'autres vont le refuser. Mais au bout du compte, il va y avoir du fruit, 30, 60 et 100. Et ce que Jésus est en train de préparer les disciples, ce qu'il est en train d'expliquer aux disciples, c'est que le royaume de Dieu va faire son chemin, va prendre l'expansion, va grossir, il va y avoir de plus en plus de conversions. Mais au bout du compte, il va y avoir la victoire. Ça va réussir. Ça va être par un chemin difficile, parfois tortueux, parfois dur, mais le royaume de Dieu va grandir, va prendre l'expansion et au bout du compte, va avoir la victoire. C'est la réponse que Jésus donne à ses disciples par cette parabole. D'ailleurs, c'est le fruit. Il va y avoir du fruit. Le royaume de Dieu va grandir, aura du succès, va s'élargir. Et on le voit aujourd'hui à travers le monde, des gens qui sont devenus des enfants de Dieu. Vous voyez? Alors, la première parabole montre aux disciples que tous ne croiront pas en Jésus-Christ, qu'il est le Messie. Certains seront fermés à l'Évangile alors que d'autres seront ouverts. Mais ça soulève une autre question. Voyez-vous, les Juifs s'attendaient que lorsque le Messie viendrait, ils jugeraient le mal. Ils jugeraient le péché. Il n'y aurait que des justes parmi le peuple de Dieu. Mais les Juifs ne comprenaient pas que ces prophéties dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des Ésaïe 60, n'étaient pas pour être réalisées tout de suite à la venue du Messie. D'ailleurs, lorsque tu étudies dans l'Ancien Testament les prophéties, on vient de faire une série dimanche soir sur les prophéties, on réalise qu'il y aura deux venues du Messie. Le Messie viendrait une première fois et il serait rejeté. Parce que, voyez-vous, pour régler la question du péché, ça prend absolument l'œuvre de la croix. Et il fallait que Jésus vienne, soit rejeté, crucifié, soit le sacrifice à la croix pour qu'il paye pour les péchés du monde entier. Tous ceux qui croiraient en lui obtiendraient le pardon de leurs fautes et obtiendraient la vie éternelle, uniquement par la foi. Il fallait que Jésus vienne régler la rédemption lors de sa première venue. Après sa crucifixion, Jésus est ressuscité et il est parti s'asseoir à la droite de son Père. Et un jour, il va revenir. Il reviendra et quand il reviendra, ce sera le début du millénium. Et la promesse d'Ésaïe 60 se réalisera lors du millénium. Mais pas de suite. Voyez-vous, les Juifs s'attendaient qu'immédiatement à la venue de Jésus-Christ, il rétablirait le règne d'Israël, réglait la question du mal, et ça se ferait tout de suite. Mais là, ça ne se fait pas tout de suite. Les Juifs attendent, et il y a une sorte d'impatience, qu'on pourrait appeler même l'impatience messianique. Comment ça se fait que Jésus est ici, et il se tient avec les gens de mauvaise vie, il ne règle pas ces choses-là tout de suite? Comment ça se fait qu'il y a un délai entre la venue de Jésus et l'établissement du règne du royaume de Dieu? La réalisation de toutes ces promesses de l'Ancien Testament, qu'il enlèverait le mal, qu'il jugerait le péché et établirait le règne à nouveau et la gloire à nouveau. C'est ce délai qu'on ne comprend pas. Voyez-vous? Et les disciples eux-mêmes, en toute honnêteté, et nous-mêmes, on se la pose parfois, on se demande, qu'est-ce que Dieu attend? Hein? Honnêtement, là, c'est en nous, ça. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que le Seigneur va revenir? Comment ça se fait que le mal continue, ça se répand, toutes sortes de choses qui arrivent? Et soyons honnêtes, c'est là cette question-là. Donc, la prochaine parabole a justement pour but de répondre à cette question-là. La parabole qui va suivre, le blé et l'ivraie, est destinée à lutter contre cette impatience. Comment ça se fait que ce n'est pas encore arrivé? Comment ça se fait que le Seigneur tarde? Comment ça se fait que ce n'est pas tout de suite? Alors, les gens sont dans cette impatience et justement, ça devient une pierre d'achoppement pour bien des gens dans le temps de Jésus, des pharisiens, entre autres, et d'autres, de ne pas comprendre comment ça, le ministère que Jésus exerce est dur à comprendre pour bien des gens. Alors, Jésus va prendre l'occasion de dire à ses disciples, de répondre à ce questionnement-là avec la parabole qu'on a vue. On va relire la parabole, on l'a vu tantôt, mais on n'avait pas le contexte, on va le relire. Maintenant, cette deuxième parabole sur le royaume de Dieu cherche donc à répondre à cette question, comment ça se fait qu'il semble avoir un délai entre l'accomplissement de ces promesses de l'Ancien Testament qu'il devrait n'y avoir que des justes. Comment ça se fait que Jésus laisse ces injustices aller? Il y a un délai avant l'accomplissement de ces choses-là. Et la deuxième parabole vise justement à répondre à cette question-là que les disciples ont. Alors, le verset 24 dit ceci, « Il leur proposa une autre parabole et leur dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Verset 25. « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie, des mauvaises herbes? Comment ça se fait? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » On va régler ça tout de suite. Hein? On règle ça tout de suite. « Non, dit-il. » Le maître dit, « Non, pas tout de suite. » De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Il y a des gens qui se sont impatientés à travers l'histoire et on appelle ça des guerres saintes. On va régler ça tout de suite, nous autres. On va l'enlever l'ivraie. Jésus dit, non, 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 c'est pas demain que ça va se faire. On va être patients, soyez patients. Vous voyez où Jésus s'en va, là? Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson. Le mot moisson dans l'Ancien Testament fait référence souvent au jugement de Dieu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et évidemment, tu ne pouvais pas distinguer entre l'ivraie et le blé parce que, dans le fond, ça ressemble, ça a l'air pareil, ça a l'air la même chose. Et ça pousse, ça pousse. La seule façon de distinguer entre les deux, tu ne peux pas le faire parce que tu ne sais pas le distinguer entre les deux, c'est d'attendre que ça soit vraiment à maturité. Et là, oups, la mauvaise herbe pousse toujours plus loin. Hein? L'ivraie pousse beaucoup plus. Alors là, ah, OK, les têtes qui dépassent, arrache ça, puis tu peux brûler ça. Tu t'en sers pas. Tu brûles, d'accord? Et là, c'est là que tu laisses juste le blé. Alors, il faut attendre la moisson. Et ce que Jésus est en train de dire, il faut attendre. Il faut attendre plus tard. Alors, Jésus va expliquer maintenant la parabole. Et avant qu'on lise l'explication, voici en gros ce que Jésus va dire. Dans la première parabole, celle des quatre terrains, Jésus dit essentiellement que la parole de Dieu va se répandre, mais difficilement. Ça va être dur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui va dire « Amen, enfin, t'arrives avec l'Évangile. » D'accord? Et la raison que Jésus donne pour ça, qu'il y aura un refus, que certaines personnes refuseront l'Évangile. La raison qu'il donne dans la première parabole, c'est en raison des hommes et des femmes. C'est l'être humain, les cœurs durs, d'accord? En d'autres mots, dans la première parabole, la responsabilité va sur l'humain, d'accord? C'est ça que ça nous dit. C'est les quatre sols, quatre différents cœurs, quatre différentes réactions face à l'Évangile. La responsabilité est mise sur nous autres. Cette nouvelle parabole met la faute maintenant en partie sur le diable, sur Satan. Et Jésus est en train de dire par cette nouvelle parabole que si le royaume de Dieu se répand difficilement, c'est parce que le diable est là-dedans, puis il veut mettre des bâtons dans les roues et ralentir la croissance du royaume de Dieu. D'accord? Vous voyez la différence? Tantôt, c'est l'être humain qui refuse l'Évangile, mais maintenant, c'est le diable qui s'en mêle. Dans les deux paraboles, lorsque tu analyses les deux paraboles, et c'est vraiment intéressant d'étudier tout ça, on n'aura pas le temps de tout voir les détails de ça, mais quand tu regardes côte à côte les deux paraboles, tu arrives à la même conclusion d'une chose, par exemple. C'est que la victoire finale appartient quand même au maître. Elle va réussir. Ça sera parsemé d'embûches, ça ne sera pas évident, mais ça va réussir. Elle va traverser, elle va se répandre. Alors, on voit à travers les deux paraboles que malgré le fait que l'expansion du royaume de Dieu prendra du temps, il va y avoir un délai et ça va être parsemé de difficultés, la victoire ultime du royaume de Dieu est assurée. Donc, on a l'explication maintenant au verset, et on va le lire, verset 36, d'accord? Maintenant, on sait ce qu'on recherche, on va lire l'explication de la parabole, on sait quelle réponse que Jésus cherche à donner sur le royaume de Dieu à ses disciples. Il ne donne pas cette explication à la foule, il donne ça à ses disciples, ils sont maintenant dans la maison, c'est aux disciples qu'il donne l'explication. Il va expliquer ce fameux délai, il va y avoir un délai. Verset 36, vous êtes là. « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Alors Jésus répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Alors c'est qui ça? C'est Jésus-Christ. « Le champ, c'est le monde. » La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Dans la première parabole, la semence, c'était la parole de Dieu. Ici, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. D'accord? Il y a un petit changement, là. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi, verset 39, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. En d'autres mots, voici ce qui se passe. Voici un semeur qui est dehors, qui s'en va, les travailleurs s'en vont, puis ils sèment, puis tout ça, du bon grain, ils sèment ça, et tous les travailleurs s'en vont se coucher, puis pendant la nuit, un voisin qui n'aime pas trop, je ne sais pas si c'est un autre compétiteur ou quoi, il n'aime pas trop, décide en plein milieu de la nuit venir et semer des mauvaises herbes. D'accord? De l'ivraie. On a ce mot-là, l'ivresse. Même famille, c'est ça. D'accord? Alors, en plein milieu de la nuit, voici, on arrive, puis on jette ces mauvaises herbes-là en plein milieu de la nuit. Alors, verset 39, « L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde. » Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Verset 41. « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » En d'autres mots, il va y avoir un jugement, mais le jugement aura lieu quand? À la fin du monde. Et, verset 42, « Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Verset 43, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et voici ce message solennel de la part du Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Alors, c'est très sérieux. Cette parabole ajoute d'autres détails sur le royaume de Dieu. De fait, Jésus apporte quatre nouveaux éléments de la parole de Dieu ici. Un, verset 40, comme on a vu, « Les non-croyants seront jugés à la fin des temps. » Il va y avoir un jugement dernier. Et on le voit dans l'Apocalypse. Il va y avoir un jugement dernier. Le jugement s'en vient. D'accord? Il aura lieu. Mais ce n'est pas tout de suite. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Soyez patients. Il dit ça à ses disciples. Ses disciples ont besoin de comprendre que Jésus n'est pas en train de réaliser toutes les prophéties de l'Ancien Testament tout de suite. Ça ne sera pas tout de suite. Et il leur explique, il va y avoir un délai avant que ça arrive. Alors, verset 40, « Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Alors, ça répond à la question, est-ce que Jésus va vraiment juger les pécheurs? Alors, Jésus dit oui, mais à la fin des temps, pas tout de suite. Maintenant, comment ce jugement va-t-il arriver? Jésus répond en disant, Jésus enverra ses anges exécuter ce jugement dernier. En d'autres mots, ce ne sont pas les saints qui vont faire ce jugement-là, ce sont les anges, et on voit bien ça, évidemment, dans l'Apocalypse, où c'est Jésus qui envoie ses anges opérer et exercer le jugement à la fin des temps. Et verset 41, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Il va y avoir un jugement. Et ce qu'on apprend même, Jésus ajoute un autre détail. Et là, maintenant, ça ne parle pas du diable, ça parle des pécheurs ici. Et voici ce qui... l'aboutissement des pécheurs, où est-ce que tous les pécheurs vont finir? Et Jésus ajoute ceci, c'est quoi ce jugement dernier? Et Jésus répond au verset 42, et on apprend que le jugement dernier se traduira par d'atroces souffrances. On se comprend là? Jésus le dit au verset 42, il dit, les anges qui s'en viennent exercer le jugement dernier jetteront dans la fournaise ardente tous les incroyants, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça répond tout de suite à cette déclaration que bien des gens disent, à savoir que quand on meurt, ça finit là, on disparaît. Il n'y a absolument rien après la mort. Le livre aux Hébreux dit bien qu'après la mort vient le jugement, et ce jugement dernier-là, il va y avoir des souffrances atroces. Et c'est Jésus qui le déclare, c'est Dieu qui le déclare. Moi, j'aimerais vous dire que si vous êtes ici ce matin, vous n'avez pas encore pris cette décision de céder votre vie à Jésus-Christ, là, c'est le temps de le faire. Imaginez si le moment de cette moisson du jugement dernier ait lieu aujourd'hui. Si Jésus revenait aujourd'hui, là, si Jésus réalisait maintenant ses prophéties du second retour et ça arriverait maintenant, là, réalisez-vous ce qui se passerait si vous n'étiez pas chrétien? C'est un appel solennel à tous ceux qui entendent l'Évangile et vous entendez l'Évangile. Si vous êtes ici, Dieu vous appelle maintenant, ce matin. Dieu ne veut pas vous envoyer dans ce lieu de tourment, de grincement de dents. Mais il va le faire. Si vous repoussez Jésus-Christ, si vous ne cédez pas votre vie à Christ, il va le faire. Jésus l'a dit. Et c'est très sérieux, et c'est la raison pour laquelle on se fait si insistant à répandre le message de l'Évangile. C'est la raison pour laquelle on parle de Jésus-Christ à plus de monde possible. Nous, on n'a rien à vendre ici, là. On n'existe pas là, pour faire de l'argent ou essayer de bâtir un empire. La seule raison pour laquelle Jésus nous laisse ici, une des seules raisons, enfin, c'est de répandre l'Évangile parce qu'il veut voir le plus grand nombre venir à Christ et sauver les hommes et sauver les femmes. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ne vous laissez jamais méprendre et croire qu'après la mort, ça finit là. C'est totalement faux. C'est pas fini après la mort. Après la mort vient le jugement. Mais la bonne nouvelle, c'est cet autre élément que Jésus emmène. Cet autre élément, c'est que les vrais croyants entreront dans la gloire de Dieu. Non seulement, oui, les non-croyants seront jugés à la fin des temps et ce jugement va s'exercer par les anges, et ce jugement sera l'enfer, le jugement dernier, ce sera un jugement pour les incroyants. Mais la bonne nouvelle, c'est nous qui avons dit oui à Jésus-Christ, qui avons dit oui à Jésus, qui avons cédé notre vie à Jésus-Christ. Nous allons entrer dans la gloire de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Verset 43. « Alors les justes resplendiront comme le soleil. » Vous rappelez-vous cette promesse qu'on a vue tantôt dans Ésaïe 60? Les justes, et les justes, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens. C'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ce n'est pas des gens parfaits, C'est des pécheurs comme vous et moi, mais qui avons dit oui à Jésus-Christ. Qui ont mis notre foi dans le sacrifice de Christ. Alors les justes, verset 43, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Imaginez, hein? C'est ça qui est réservé pour les enfants de Dieu. Et quel encouragement pour les disciples. Oui, ce sera raboteux, ce sera difficile, on va répandre l'Évangile et le royaume de Dieu va faire son chemin, va se répandre et va s'étendre à travers le monde, mais ce sera difficile. Mais sachez qu'au bout du compte, il y a une récompense qui vient à la fin. Nous allons resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et on sait bien que nous voyons dans l'Apocalypse et dans ces prophéties qu'on a vues dans Ésaïe que nous allons recevoir cette gloire et l'éclat de la présence de Dieu. C'est ça qui va arriver. Nous allons entrer dans un lieu où il n'y aura plus de souffrance. Et si en enfer, c'est des souffrances pour l'éternité, dans le ciel, c'est la joie pour l'éternité, voyez-vous? Et Paul parle de ce moment-là où les enfants de Dieu recevront leur récompense, ce grand jour. Parce que Paul sent le besoin un jour dans la lettre aux Corinthiens de se défendre. Voyez-vous, pour une raison, c'est tout à fait humain. À un moment donné, il y avait des gens dans l'église de Corinthe qui préféraient Céphas, préféraient Apollos, critiquaient Paul. « Ah, moi j'aime mieux un tel, moi j'aime mieux un tel, j'aime mieux le docteur Céphas. Ah, moi j'aime mieux un tel docteur Apollos. » C'est tout ça. Et Paul était critiqué. Même son intégrité était remise en question. Et Paul va répondre à ses accusations à l'église de Corinthe en disant ceci. Et il fait allusion à cette bénédiction qui s'en vient des récompenses des saints. Et voici ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 4. Paul va répondre en disant ceci. « Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » C'est comme ça qu'on devrait nous regarder, dit Paul. « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. » Regardez bien ce qu'il ajoute. « Mais ce n'est pas pour cela que je me sens justifié et que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi... ne jugez de rien avant le temps. » Ça revient à la même chose dans la parabole que Jésus vient de donner, vous voyez? Pas de suite, il y a un délai, là. Pas de suite. « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Est-ce que vous avez peur? Quand vous pensez à ça, pensez-y, là. Pensez à ces paroles, là. « Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. » Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent, quand j'ai lu ce passage-là, je me voyais au ciel. Imagine, Herman, là, tu es au ciel. Tu es assis. Tu es un enfant de Dieu. Et là, tu es au ciel, assis à côté de ta femme. Comme là. Tu es assis à côté de tes enfants. Et là, il y a un grand écran, immense écran, et tout le monde dans le ciel sont assis. Et c'est la vie d'Herman. On est tous là assis, puis on regarde toutes les pensées complètes qu'Herman a eues dans sa vie. Toutes les mauvaises pensées, tout ce que tu as pensé toute ta vie, là, on est assis là, puis on regarde. Voici la biographie des pensées qu'Herman a eues toute sa vie. Est-ce que c'est comme ça que vous imaginez? Hein? As-tu hâte, Stéphane? Est-ce que c'est ça que c'est en train de dire? Voyez-vous cette place-là à la fin des temps quand on va être au ciel comme ça, pour les enfants de Dieu? Hey! Moi, je ne veux pas y aller. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Les mauvaises choses que j'ai faites hier, que je vais faire tantôt, sur la route. Les mauvaises choses que je vais faire demain et jusqu'à la fin de ma vie ont été réglées où? À la croix. Parce que voyez-vous, l'œuvre de la croix, c'était pas juste pour les péchés passés. C'est intemporel. C'est en dehors du temps. Ça couvre tous les péchés de ma vie. Ça, c'est réglé à la croix. Amen, hein, Herman? Alléluia! Je comprends! Donc, ce, on va l'appeler jugement, mais c'est pas un bon terme. Cette remise de prix, cet Oscar qui s'en vient, la remise des Oscars, hein? On oublie souvent la dernière partie du verset. Ça dit quoi? Paul dit, « Chacun recevra de Dieu, quoi? La louange qui lui sera due. » On ne sera pas là assis dans le ciel puis voir juste les mauvaises choses. Non, non, on ne verra même pas ça. Ça a été effacé. Dieu dit, « Je prends vos péchés, je les jette au fond de la mer. » La mer la plus profonde, 35 000 pieds, c'est loin. En d'autres mots, le Seigneur est en train de dire, c'est disparu. Je prends vos péchés, je les mets dans le milieu de l'omoplate. Vous savez, cet endroit-là qu'on n'est pas capable de toucher, là? Et ce que Dieu est en train de dire, c'est disparu. Je ne peux pas revenir, je ne les vois pas. D'accord? C'est tout effacé, c'est fini, ça, c'est réglé. Alors Dieu veut te récompenser, veut te bénir. Et un jour, tu as beau me critiquer tant que tu veux, me juger tant que tu veux, et ce que Paul est en train de dire, « Hey, un jour, moi j'ai un beau trophée qui m'attend. » Là. Et chacun d'entre nous, et c'est ça, c'est pour ça qu'on veut servir le Seigneur. On veut servir le Seigneur, on veut s'impliquer, on veut se mouiller, parce qu'un jour, il y a les Oscars. Ça s'en vient, la remise des Oscars, les trophées, les prix, les médailles. Merveilleux, hein? Donc, ce que le Seigneur est en train de dire, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. En d'autres mots, si tu n'es pas un enfant de Dieu, aie peur. Oui, j'espère que tu vas sortir d'ici et tu as peur. Oui, j'espère que tu as peur parce que le jour vient du jugement dernier. Si tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais en même temps, si tu es un enfant de Dieu, et tout comme Jésus veut encourager ses disciples et leur dire, continuez. Ça sera difficile, ça va être raboteux, mais persévérez parce que les Oscars s'en viennent. Un jour, le royaume de Dieu va s'étendre et on nous aurons la victoire. D'accord? Prions, Seigneur. Ô Seigneur, lorsque nous sommes devant ces versets qui nous rappellent ce jugement qui vient pour les incroyants, pour les non-chrétiens, Seigneur, nous sommes tristes et nous avons peur pour eux. Quand on pense que le jour vient où il y aura ce jugement dernier où les gens souffriront d'atroces douleurs, grincements de dents. Ils voudront mourir, mais ne pourront même pas mourir, Seigneur. Nous prions que s'il y a quelqu'un ici ce matin, une personne, peut-être deux, peut-être cinq, toi tu connais les cœurs, nous prions, Seigneur, que tu puisses les sauver maintenant, qu'ils puissent s'abandonner à toi et humblement dire, Seigneur, pardonne mes péchés, sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Et pour nous qui sommes tes enfants, Seigneur, nous voulons persévérer à répandre cette semence de la parole de Dieu, parce que ta parole est en train de se répandre. Ta parole, ton royaume est en train de s'étendre à travers le monde. Et nous savons qu'un jour, tu viendras nous chercher. Nous entrerons dans ta présence et dans ta gloire, Seigneur, pour jouir de ta présence pour l'éternité. Alors nous voulons être fidèles à te servir, parce que nous te prions au beau nom de Jésus pour ta gloire. Amen.